Nous évoquons Le lait de l'oranger, un livre écrit par Gisèle Halimi et qui vient de paraître, comme nous disait tout à l'heure Annette, de la librairie L'Inédite, en collection livre de poche. Et c'est pour ça qu'elle a eu envie de vous faire partager ce bouquin qui, enfin, est accessible à un prix extrêmement bon marché. Alors Annette, nous disions que une des premières causes qu'a défendue en tant qu'avocate Gisèle Halimi, c'est la défense des Algériens pendant la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'indépendance de l'Algérie.
Oui, en fait, elle a commencé cette activité avant la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que c'est au moment où un certain nombre d'Algériens ont commencé à prendre conscience de leur nationalité, si je puis dire, et puis de leur désir d'indépendance. Il y a eu une répression extrêmement grave dans certaines bourgades contre ces gens qui demandaient une certaine liberté, une certaine autonomie. Et il y a eu donc des procès truqués. Alors il y a un célèbre procès qui s'appelle El Alia, je ne vais pas le raconter en détail ici, mais c'était avant quand l'OAS commençait avec les bombes et puis les délations, mais ce n'était pas encore la guerre déclarée, ce n'était pas encore cette guerre telle qu'elle a déchiré la France et l'Algérie, c'était encore avant. Mais elle, effectivement, s'est engagée aux côtés d'Algériens qui étaient condamnés injustement. Et elle raconte alors en détail ce procès de El Alia où tout était un montage fait par les édiles de la petite ville dans laquelle il y avait eu un massacre.
Vous vous souvenez du film qui s'appelait L'Insoumis ?
Oui.
Mais il me semble que on avait dit à l'époque que c'était pris dans la vie même, la biographie de Gisèle Halimi. Il y a une avocate, je me souviens, L'Insoumis, c'est un jeune homme qui refuse de servir dans la guerre d'Algérie, qui s'échappe et qui revient en France et qui est caché en Italie, je crois, par une avocate. Et j'avais entendu dire que c'était l'histoire de Gisèle Halimi, défendant un de ses soldats.
Est-ce
Alors,
qu'elle l'évoque?
Elle n'en parle pas dans ce livre. Mais effectivement, en tout cas, ce qu'elle raconte comme événement, disons, à la fois lié à son engagement en tant qu'avocate lorsqu'elle doit plaider dans certains tribunaux, et puis les contacts qu'elle a avec ses condamnés et avec ses accusés, on se rend compte qu'elle a un contact extrêmement amical et qu'elle essaye de comprendre aussi la vie privée de ses clients. Et dans ce sens-là, on a l'impression, effectivement, enfin moi j'ai l'impression qu'elle exerce son métier d'avocate différemment de pas mal de gens. Dans ce sens-là, une fois de plus, moi je trouve que c'est une femme extrêmement intéressante à découvrir parce qu'elle communique un respect de la personne et une dimension différente des gens.
À cette époque, il ne devait pas y avoir beaucoup de femmes avocates et surtout pas s'engageant comme ça dans des causes entre guillemets perdues, enfin dans le sens que peu de gens acceptaient de défendre tellement elles étaient difficiles. L'évoque-t-elle dans son livre ?
Oui, alors elle en parle beaucoup. Elle en parle d'une manière, je trouve, simple. Elle ne se met jamais en avant. Elle parle d'ailleurs à plusieurs reprises de confrères avocats, alors des hommes qui ont été assassinés à l'époque par l'OAS. Elle a, semble-t-il, échappé à la mort à plusieurs reprises. Elle a été l'objet, évidemment, de téléphones anonymes, d'attaques dans la presse, de tout genre. Et elle a surmonté ça. Bon, elle ne dit pas que c'était facile, mais elle ne s'étend pas sur cette dimension-là dans le livre. Mais elle la cite, elle est discrète, elle ne se met jamais en avant. Elle essaye en même temps de restituer une certaine vérité historique. Et moi, j'ai beaucoup appris, en fait, sur les dessous de la guerre d'Algérie ou de l'après-guerre d'Algérie en lisant ce livre.
Ensuite, elle passe directement à d'autres causes qu'elle a défendues ou bien ça se mélange, justement, comme tu disais, avec des extraits de sa vie intime.
Oui. Alors,
on marche parallèlement.
Si on veut être puriste, on pourrait dire que parfois le livre est un petit peu confus. Parce qu'effectivement, elle fait beaucoup de retours en arrière presque aussi parfois de retour en avant, parce que tout à coup, le père est de nouveau là, mais à la fin de sa vie, donc comme il était comme dans le départ du livre. Donc c'est vraiment, au niveau du temps, c'est un petit peu compliqué à suivre à l'occasion. Mais d'une autre façon, on fonctionne toujours comme ça. Quand on essaye de se rappeler des moments de son existence, quand on s'attache à retracer une certaine époque de sa vie, eh bien, les souvenirs de l'enfance ou ce qui se passe juste à ce moment-là interfèrent. Et dans ce sens-là, une fois de plus, le livre est quand même extrêmement passionnant à découvrir. Mais il peut être parfois un petit peu confus. À la limite, si on lit trop vite, on doit retourner un petit peu en arrière pour dire « Ah oui, mais à quelle époque sommes-nous ? De quoi est-ce qu'elle veut parler ?» Mais il y a quand même une structure donc, par partie qui est tout à fait claire. Donc, c'est pas difficile de s'y retrouver, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est raconté au jour le jour. Et effectivement, il y a toujours l'aspect un petit peu historique de sa vie, puisqu'elle est une femme publique. Hein. Et en même temps, il y a ces problèmes, ces difficultés, justement son petit garçon qui est malade à l'hôpital, qui doit se faire enlever les amygdales, sa mère qui refuse de le prendre en vacances. Et en même temps, grâce à ce fil conducteur qui est sa vie de femme en prise avec le quotidien, eh bien, on a toujours envie de savoir comment ça veut aller.
C'est étrange d'imaginer que des gens, enfin en l'occurrence ici Gisèle Halimi, ont envie d'écrire de leur vivant leur biographie. Moi, ça m'a toujours un petit peu interrogée. Quand tu dis que maintenant, elle évoque des moments aussi intimes et en guillemets pour le commun des mortels sans grande importance collective, si je puis dire, tels que les moments que tu viens de décrire. Comment se fait-il qu'elle peut décider, elle, que ça a de l'importance à transmettre à d'autres ? À ton avis, quand tu lis ça, t'as pas l'impression qu'elle te raconte des ragnagnas de bonnes femmes ou qui n'intéressent qu'elle, mais ça peut nous intéresser, nous.
Alors justement, j'ai réfléchi à cela en relisant le livre pour aujourd'hui, et j'avais envie de faire un petit parallèle avec un autre livre que j'ai lu sur une femme féministe, qui est donc « Amour et pouvoir » de Gabrielle Lanchon, où justement, moi, je me suis ennuyée. Et j'ai trouvé que quand elle me raconte qu'elle plante ses salades le matin ou qu'elle joue du piano quand tous ses enfants sont partis à l'école, moi, je me suis beaucoup ennuyée. Donc là, je parle de Gabrielle Lanchon. Et au contraire, quand j'ai suivi « Le lait de l'oranger » de Gisèle Halimi, eh bien, je sais pas, il y a une sorte d'enchantement de la lecture ou parce que cette femme traverse autrement les pages de son livre, j'ai jamais eu ce sentiment-là. Au contraire, j'avais envie de communiquer avec elle. C'était très, très différent. Alors, pourquoi ? Je pense que la réponse, elle n'est pas très simple à donner. Il faudrait faire peut-être une analyse fouillée du type de la façon dont aussi les mots sont agencés. Mais je crois que surtout, Gisèle Halimi s'engage dans la vie, mais d'une manière absolument totale, mais dans la vie de chacun, de toutes ces personnes qu'elle défend. Et je crois que c'est tellement fort chez elle que les moments où elle se repose de cet engagement, on a envie de souffler avec elle. Et dans ce sens-là, on peut la suivre sans difficulté.
Et c'est aussi une façon de comprendre comment on peut accepter un engagement comme celui qu'elle a pris très vite et en même temps mener une vie de famille, cette fameuse vie des superwomen, oui. Mais qu'on peut aussi comprendre comme nécessaire parce qu'à la fois il y a la nécessité de l'engagement et puis l'envie de vivre une vie
voilà. Affective. Et dans ce sens-là, moi j'avais envie de vous lire, si j'ai encore le temps, une page où justement elle met en évidence cette ambiguïté profonde de sa vie. La dualité de mes racines, ma Tunisie d'enfance, ma France de culture, m'agitait de ses contradictions. L'exil de mes soleils me brûlait comme un amour absent, mais la grisaille des amphis parisiens effaçait comme par miracle ce manque. Il nourrissait ma soif de liberté et mes certitudes d'autres lendemains. Mon avenir, je le voulais mien, indifférent aux forces qui parquaient les femmes dans le deuxième sexe. Je refusais le modèle féminin. J'étudierai, je travaillerai, j'agirai comme un homme. Mais, comme en chaque féministe, deux cultures, féminine, masculine, coexistaient en moi. À la première, j'opposais la revendication égalitaire, la reconnaissance de mes capacités. La seconde se nourrissait de mes différences de femme et me nourrissait en retour. Ainsi, le monde universaliste, celui des hommes, et mon affectivité particulariste, celle des femmes, se trouvaient-ils en conflit permanent. La déviance me fut à certains moments riposte, à d'autres blocages qui me paralysaient. Je ne pouvais faire mon deuil d'une partie de moi-même, choisir d'être homme ou choisir d'être femme, et comme toutes les femmes, je me révélais ambiguë. À ma place, bien dans ma peau de femme, quand je m'éprenais d'un homme, à la manière d'une midinette. À ma place aussi, et dans ma peau de mère, quand je tremblais du mal ou vibrais de l'émoi de mes enfants. J'aimais l'amour, j'aimais mes fils, j'aimais être aimée par eux et par les hommes. Mes désirs ne s'annulaient pas entre eux. J'allais d'un registre à l'autre, je prétendais les préserver tous. Plaider des dossiers comme un homme, me perdre de passion comme une femme, le monde m'était d'évidence, dichotomie. Ce défi m'acculait certains jours à l'échec. Allant d'un système de valeurs à l'autre, je me retrouvais la tête vide, le cœur blessé.
Alors Annette, ce texte que tu nous as lu montre bien dans quel débat à propos des femmes Gisèle Halimi s'est lancée. Comment s'est-elle vraiment, ou à partir de quel moment plutôt, s'est-elle vraiment engagée dans la cause des femmes? Qu'est-ce qui a suscité tout à coup cet intérêt en se disant maintenant c'est à leur côté que j'ai envie de me battre?
Et je crois que très vite, elle s'est rendue compte que avocate femme, dans un barreau quand même essentiellement masculin, c'était une situation qui n'était pas extrêmement confortable. Et très vite, elle s'est rendue compte qu'elle devait, donc elle le dit, assumer en fait deux vies, deux fonctions. Et elle a voulu travailler sur le problème de la femme parce qu'elle, en tant que femme, elle avait besoin de concrétiser un petit peu ses difficultés et d'aller plus loin dans l'analyse. Et je crois que ça lui a suffi pour se déterminer à un moment donné dans l'histoire pour continuer à travailler avec la cause des femmes. Elle a aussi eu des contacts, donc entre autres avec Simone de Beauvoir. Ça a été quand même une des personnes dans sa jeunesse qui l'a orientée dans cette bataille-là et qui a présidé un petit peu à la prise de conscience qu'il fallait se battre d'une manière spécifique pour la cause des femmes.
Est-ce qu'elle s'est vraiment, en guillemets, spécialisée dans la défense des problèmes de viol? Parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ces cas-là. Elle a essayé de faire reconnaître dans la Constitution française, avec le mouvement des femmes, le crime que représente un viol, qui ne figurait même pas dans les crimes graves.
Oui. Donc là, il s'agit du fameux procès de Bobigny, qui est en fait donc l'objet de l'autre livre dont je parlais au début de l'émission, qui est La cause des femmes. Alors elle le cite un petit peu dans ce livre, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas cette histoire. Il y a déjà quelques éléments dans le lait de Laurent. Mais la cause des femmes met alors beaucoup plus en évidence, disons, les tenants et les aboutissants de ce procès. Gisèle Halimi y a participé parce qu'elle était, je pense, à l'époque déjà la femme engagée, avocate reconnue, qui pouvait aider le plus cette jeune fille engagée dans ce procès. Et elle connaissait pas mal de ces femmes célèbres qui ont signé le fameux manifeste. Et dans ce sens-là, elle était... je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres femmes avocates donc, qui avaient la possibilité de plaider au barreau parisien comme elle. Donc,
Je crois, parce qu'on en avait rencontré une fois dans le mouvement des femmes au moment du viol des femmes de Prénaville. Mais hélas, sur le moment, je ne me rappelle plus son nom, je voulais te le dire. Mais je sais qu'on avait rencontré une femme qui avait travaillé avec elle et dans d'autres circonstances aussi. Mais alors, les rencontres dont tu viens nous parler, Simone de Beauvoir par exemple, toutes ces rencontres qui t'avaient étonnée, tu t'es dit, ah, mais d'imaginer qu'elle a pu rencontrer Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, tout ça, c'est des personnages effectivement qui ont marqué une certaine période intellectuelle et politique de la France.
Oui, tout à fait.
Aujourd'hui, comment Gisèle Halimi vit avec une France qui a perdu toutes ses grandes têtes? Elle en parle à un moment donné, elle regrette, elle a trouvé d'autres personnes avec qui vivre cet enthousiasme et cet engagement.
Elle n'en parle pas de cette façon-là à la fin du livre. Bon, elle dit qu'elle est actuellement la marraine du fils de Guy Bedos. Donc, elle a aussi des contacts avec des gens plus jeunes qu'elle qui aussi essayent d'avoir une prise un petit peu originale sur l'existence et qui ne soient pas forcément des gens happés par le pouvoir ou la célébrité. Elle est très proche de ses enfants. C'est une grand-maman aujourd'hui. Et je crois que dans ce sens-là, elle fait un certain retrait quand même de la vie publique, même si on l'a vu d'ailleurs une ou deux fois à la télévision l'hiver dernier. Dans ce qu'elle raconte de ses rencontres justement avec Camus, avec Sartre, avec d'autres, on sent une certaine nostalgie. Et je crois que c'est quelque chose qui est inévitable. Avec le départ de ses amis, quelque chose de fondamental s'écroule quand même. On est toujours plus seul. On est aussi plein de ce qu'ils nous ont apporté. Je crois que chacun doit vivre ça peu à peu au cours de sa vie. Et pour moi, dans ce sens-là, c'est, on reviendra au livre d'Evelyne tout à l'heure, aussi une leçon de vie, ce lait de l'oranger. Parce que si elle a... Moi, elle m'a restitué une certaine nostalgie. Elle parle du dernier repas qu'elle a organisé pour Sartre, justement. Et la tristesse qu'elle a éprouvée au moment de sa mort. Et bon, elle parle beaucoup aussi du départ de son père, qui la choque énormément, qui l'éprouve. Mais elle n'est jamais amère. Et dans ce sens-là, je trouve qu'elle arrive à nous donner, à la limite, même du courage, même si on sait que ces gens... qui, à une époque de notre vie, nous ont beaucoup apporté, et ne sont plus là, ça ne reviendra jamais, c'est un manque, c'est une perte irréparable, on ne pourra jamais réparer ça, mais il faut continuer, il faut rester courageux, il faut continuer à aller de l'avant.
Alors peut-être, Annette, nous pouvons redire le titre en entier de ce livre. C'est Le lait de l'oranger, écrit par Gisèle Halimi, publié autrefois en collection aux éditions Gallimard, mais que vous pouvez aujourd'hui acheter en édition de poche. Et bien sûr, chez nos amis de la librairie d'édite, on vous rappellera tout des ouvertures tout à l'heure. Mais pour l'instant, on fait une petite pause avec Nicole Croisy avant de découvrir le livre qu'a lu pour nous Evelyne. Thank you.
jumped off the Tallahatchie Bridge.
À Billy Joe avec Nicole Croisy dans Remue Ménage Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis dans Honte Femme. Evelyne, tu as lu un tout autre livre. Ce livre s'appelle Leur leçon de vie, écrit par Dominique Soudinos. Et tu nous as dit, c'est 12 portraits de personnes qu'a réuni cette femme. Alors, comment elle a fait ces portraits? C'est des entretiens, des rencontres, des interviews? Comment a-t-elle réuni tous ces gens et pourquoi?
Alors d'abord, pourquoi? Dominique Soudinos, c'est une femme de 45 ans qui est une universitaire de formation, mais une mère de famille aussi, mère de 3 enfants. C'est une femme qui a travaillé près du pouvoir, enfin dans certains ministères de l'État français, des ministères sociaux. Elle s'occupait de certains dossiers sociaux. Je ne me souviens plus exactement maintenant lesquels, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais cela l'a fait certainement rencontrer beaucoup ou quelques-unes des personnalités qu'elle a voulu mettre en scène ou interroger dans le livre « Leur leçon de vie ». Et ça, moi, j'étais intéressée par un petit article que j'avais lu dans Le Monde qui disait « Voilà un livre sur la recherche du sens de la vie ». Et ça m'a beaucoup interpellée. parce que comme tout un chacun, surtout à cet âge de la vie où on peut supposer qu'on est à peu près à la moitié, c'est le cas de Dominique et puis c'est mon cas aussi, et un âge où on a envie de, on peut, disons, regarder en arrière et on peut regarder en avant. On aimerait voir le chemin qui était parcouru et puis essayer de discerner, moi je dis dans les brouillards de l'avenir, une piste éventuelle à suivre. On a envie de savoir où on en est. Et elle a eu le même besoin. Et comme elle n'y voyait pas très clair, elle a fait un peu ce qu'on fait dans d'autres civilisations, on va demander aux anciens un éclairage. Donc elle s'est approchée de 12 sages, 12 anciens et anciennes, 10 hommes et 2 femmes. Et ce sont vraiment des anciens parce que les plus jeunes ont dans les 70 ans et les plus vieux dans 90 ans. Et elle leur a demandé, mais au fond, qu'est-ce qui est important dans la vie? Vous qui êtes à la fin d'un parcours, quelles sont les luttes qui valaient vraiment la peine de faire? Quelles sont celles qui sont stériles? Qu'est-ce qui vous a paru finalement important après toutes ces années? Des questions importantes aussi.
Ça, hein, c'est sûr.
Et bon, elle leur a d'abord posé la question par une lettre. Elle leur a expliqué ses projets, ce qu'elle avait envie de faire et s'ils acceptaient de la rencontrer. Et elle les rencontrait sans enregistreur. Et ils ont été d'accord. Donc elle s'est approchée d'eux sans instrument, avec sa seule mémoire, pour garder en tête les récits qu'elle écrivait ensuite et leur soumettait. Elle n'a publié que ce qu'ils avaient approuvé, accepté. Et on pourrait se demander aussi comment elle les a choisis, ces 12. Alors elle les a choisis parce qu'elle les connaissait de près ou de loin et elle était fascinée d'une certaine manière par leur destinée, par leur itinéraire, par ce qu'ils avaient fait. Et très intéressée aussi par le fait que c'était toutes des personnalités qui avaient toujours œuvré très librement. C'est des personnages très libres et ça c'est quelque chose de très précieux et de très intéressant.